Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là ce matin. C'est vendredi. Il fait pas pire beau. C'est dans cet état que nous commençons cette émission. On va vous proposer plusieurs sujets. Je vous le dis d'entrée de jeu, tout à l'heure, en deuxième heure d'émission, on sait qu'on peut pas voyager vraiment. Là. Je parle pas de ceux qui y vont pareil, mais comme en théorie, on ne devrait pas voyager, j'avais envie quand même ce matin de vous permettre de rêver à des voyages. En tout cas, un jour, on va s'en sortir de cette maudite situation qu'on vit, de cette pandémie, et on pourra sans doute reprendre la route. Et je vais vous poser la question tout à l'heure, si vous aviez une destination, imaginez une carte du monde devant vous, puis vous avez une espèce de vous avez un choix, là, vous avez une épingle à mettre quelque part sur la carte, où est-ce que vous iriez? On va en discuter tout à l'heure. Mais avant, bon, vous avez vu hier sans doute le premier ministre François Legault nous dire que, ben oui, il y a des chiffres encourageants. L'évolution de la pandémie au Québec et le nombre de cas qui se confirment tous les jours montrent qu'il y a un certain effet du couvre-feu, entre autres mesures là, qu'on vit en ce moment, mais que ça ne veut pas dire que le 8 février, ça va rouvrir partout. On écoute le premier ministre du Québec.
Mais il faut être capable de réduire le nombre d'hospitalisations, deux, arrêter le délestage, puis trois, commencer à réduire nos listes d'attente. Donc, je demande aux Québécois, là, d'être patients. Je sais qu'on est tannés, mais même si les chiffres s'améliorent, on pourra pas tout rouvrir dans les prochaines semaines.
On pourra pas tout rouvrir dans les prochaines semaines. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, le 8 février, on va être en mesure de lever ce couvre-feu où il y aura prolongement? On va en discuter au cours de la prochaine heure. Je vais vous demander, vous, si, par exemple, il y avait une prolongation du couvre-feu au-delà du 8 février. Là, on est le 22 janvier. C'est dans deux semaines. Est-ce que l'idée, là, d'avoir, par exemple, un prolongement jusqu'à la fin février, on rajoute un autre deux semaines après. Comment vous accueilleriez ça? On comprend, sincèrement, moi, je trouve qu'en même temps, il y a une prudence dans le ton du gouvernement, une prudence, je pense, qui est bienveillante et bienheureuse parce qu'on ne voudrait pas non plus. On l'a beaucoup critiqué, le gouvernement, de jouer au yo-yo avec nous. Là. Moi-même, je vous l'ai dit, là, qu'à un moment donné, je trouvais que le yo-yo, c'était pas le fun. Alors, vaut mieux dire, regardez, ça se peut qu'on ne soit pas en mesure de rouvrir le 8 complètement. Ça se peut que ce couvre-feu perdure. J'aime mieux qu'on nous dise ça aujourd'hui plutôt qu'on nous fasse miroiter quelque chose qu'on ne sera pas capable de tenir. En même temps, il y a quand même des bonnes nouvelles dans ce que nous a dit le premier ministre hier. C'est vrai que la situation sent mieux. On va aller voir ce qu'en pense la spécialiste en santé publique, la docteure Marie-France Reynaud. Elle est professeure émérite de santé publique à l'Université de Montréal. Bonjour, docteure Reynaud.
Bonjour.
Vous y voyez-vous un certain baume sur notre plaie pandémique? C'est quand même des nouvelles encourageantes, là, ce qu'on a entendu hier.
Ben, si on regarde le nombre de cas qu'on a maintenant, et si on le compare à ce qu'on avait il y a 10 jours, là, on voit qu'il y a une nette amélioration. Ce qui est encore plus important, parce que c'est ça qui va guider la décision dans les prochaines semaines, c'est qu'on semble voir une stabilisation des hospitalisations, voire une légère diminution. Alors, c'est là-dessus qu'on va devoir se guider là, pour prendre des décisions.
Comment vous voyez la suite des choses à la lumière, justement, de l'évolution de la pandémie? Là?
D'une part, deux semaines, c'est très long en termes de temps covidien. Là. Il peut se passer beaucoup de choses. Là. Je viens de vous faire remarquer qu'il y a deux semaines, on n'était pas du tout dans la situation où on est maintenant.
C'est vrai.
Là, reste à voir. Puis je pense qu'on a encore une semaine pour observer si on va continuer sur une pente descendante ou si on va se stabiliser à ce niveau-là. Si on se stabilise au niveau où on est présentement, c'est un peu trop pour les hospitalisations. C'est sûr qu'on peut traiter tous les cas de COVID, mais ça implique de mettre en attente tous les autres cas qui sont pas très urgents, mais qui ont néanmoins besoin de soins. Alors là, c'est sûr que le 8 février, il va falloir faire des choix. Comme dit le premier ministre, on pourra peut-être pas tout réouvrir si notre système hospitalier a pas repris son souffle. Mais là, on a des choix à faire. Est-ce qu'on ouvre les commerces, on continue le couvre-feu, on laisse les commerces fermés et puis on abolit le couvre-feu? Alors, il y a toutes sortes de choses à mettre en balance. Mm-hmm.
Je comprends que pour vous, là, quelque chose qui est inquiétant, c'est le fameux délestage dont on a parlé depuis le dernier mois, c'est-à-dire le fait qu'on doive prioriser ou en fait qu'on ait choisi de prioriser les cas COVID au détriment des autres patients qui vont devoir justement attendre. On a vu, on l'a encore la nouvelle ce matin, des milliers de cas de cancer là, qui sont pas traités de la façon dont ils mériteraient d'être traités. Du délestage de chirurgie, on en voit d'ailleurs depuis plusieurs mois, là, bien avant même qu'on en parle et qu'on soit tous outrés de ça. Il y a quand même, ça s'est vu, ça s'est fait, ça se fait. Là, il y a ce plan-là de délestage qui a été, qui est prêt à être mis en place et qui est mis en place dans certains hôpitaux parce qu'on n'a pas le choix. Donc, c'est ça, vous, qui vous inquiète surtout, Dr. Reynaud, qui vous fait dire, de toute façon, après le 8 février, il y en aura encore, on n'aura pas le choix de continuer à maintenir certaines mesures.
Bien, tout le monde a le droit d'être traité, là, c'est évident. Moi, je ne suis pas tellement inquiète d'un excès de mortalité, là, parce qu'on n'aurait pas opéré des cas urgents ou que des cancers n'auraient pas été traités. Mais il y a beaucoup de souffrance puis d'anxiété avec le délestage, là, c'est... Quand on a un cancer puis on est en attente d'une chirurgie, quand même, il y a des bonnes évidences que d'attendre 3 semaines de plus, ça changera pas le pronostic. C'est quand même pas confortable pour la personne et pour sa famille. Alors, faut prendre ça en compte dans les décisions, là, de mesures populationnelles parce que, il faut que le système de santé fonctionne comme il faut. Actuellement, ça s'améliore. Je pense qu'on peut penser, si la tendance se maintient, à ce qu'on commence à reprendre là, des chirurgies et puis des traitements qui étaient non urgents.
Ouais. Parce que vous dites peut-être pas un excès de mortalité, mais quand le gouvernement dit là, on a été capable de mettre un chiffre, là, il y a une nouvelle étude du ministère de la Santé et des Services sociaux qui dit que concrètement, là, entre mars et juin 2020, le réseau de la santé a dû encaisser une baisse de 16 % des chirurgies oncologiques. Là, ça, c'est des cas de cancer. En raison du délestage, ça représente à peu près 1 500 chirurgies de moins. C'est quand même énorme. Là, 4 000 cancers non diagnostiqués. On parle de cas de cancer du poumon, de colorectal, cancer du sein. C'est un retard qui a une ampleur importante, là.
On avait remarqué cet été, là, ce qui contribue aussi à expliquer la fatigue du personnel soignant, mais là, on a redélesté dernièrement. Là, alors, on n'avait pas réussi à reprendre tout le retard accumulé, et puis là, ben, on en ajoute.
Il y a des médecins qui disent en plus qu'on sous-estime le nombre de chirurgies qui vont devoir être prises. Donc, peut-être qu'on n'a même pas l'ampleur exacte de ce fameux délestage.
Les études antérieures avec le SARS là, avaient montré que le SARS avait eu une durée beaucoup moins longue que notre épidémie actuelle, là, mais avait montré qu'il n'y avait pas eu vraiment d'excès de mortalité. Par contre, la souffrance, les complications à long terme, c'est des choses qui sont très difficiles à mesurer puis qui se mesurent sur plusieurs années. Alors, c'est sûr qu'avoir un portrait complet, là, c'est impossible maintenant.
Oui. Docteur Reynaud, si vous étiez à la place du gouvernement, comment vous iriez? Vous dites qu'il y a plusieurs choses là, qui peuvent être faites. C'est sûr que là, il y a de l'espoir, mais il ne faut pas relâcher. Donc, il faudra peut-être y aller progressivement. Un mot qu'on a beaucoup utilisé quand même depuis les derniers mois. Là. Donc, ça ne nous surprendrait pas. Vous feriez ça comment, vous, le 8 février, par exemple? Est-ce que vous maintiendriez ce couvre-feu? Vous le prolongeriez au-delà du 8? Est-ce que vous permettriez en même temps une certaine ouverture de certains commerces? Comment vous feriez ça, vous?
D'une part, il y a des mesures que je laisserais en place, là, certainement. Par exemple, toutes les nouvelles mesures qui ont été introduites dans les écoles, je ne reviendrai pas en arrière là-dessus, certainement.
Les deux masques, par exemple, imposés?
Oui, par exemple, les masques de procédure, ça, je garderai ça certainement. Là, il y a un choix à faire entre le couvre-feu puis l'ouverture des commerces. J'aurais besoin de... Les commerces, vous savez, il y a plusieurs petits commerçants qui ont déposé leur bilan. C'est dur pour les petits commerçants, on leur en a demandé beaucoup. Et puis, dans une idée aussi de reprendre une certaine normalité pour la santé mentale, d'avoir des commerces ouverts, c'est pas négligeable. Hein? Ça donne l'impression d'avoir une vie un peu plus normale. Mais peut-être que il faudrait voir, puis je suis très intéressée à entendre vos auditeurs là,
oui.
sur à quel point ça les pénalise, le couvre-feu. Moi, j'ai l'impression que le couvre-feu pénalise moins que la fermeture des commerces. Puis j'ai l'impression aussi que le couvre-feu donne des arguments aux parents là pour faire en sorte que leurs adolescents ou leurs jeunes adultes respectent davantage les consignes, parce qu'on a vu que les rassemblements dans le temps des fêtes, qui n'étaient pas seulement le cas des jeunes, là, il faut être bien honnête, ont contribué beaucoup au flare-up de l'épidémie, là, à la résurgence. Alors,
mais vous avez tellement raison. Puis quand vous dites, puis j'adore que vous invitiez mes auditeurs à réagir, on va le faire tout de suite ensemble. On va les écouter, Dr. Renaud. Vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 de l'extérieur, partout au Québec, sur Internet. Ceux qui vous nous écoutez, vous faites le même numéro, 1-866-790-9850. Dr. Renaud, vous avez raison de dire que vous estimez que les gens sont peut-être pas tant influencés ou négativement par l'imposition du couvre-feu. Si je me fie au sondage qu'on a fait, nous ici, Cogeco, avec un sondeur, on a posé la question aux gens, de quelle façon ça vous influence. Je l'avais posé la question la semaine dernière, les gens me disaient, ben pas tant que ça. Puis effectivement, il semble que 18 % des gens seulement sont affectés. Donc, il y a une majorité de gens, finalement, qui continuent de vaquer à leurs occupations, puis ça les dérange pas trop que ça. Beaucoup de gens me disaient la semaine dernière, ben moi, après 8 heures, de toute façon, je suis pas très sorteux. Je suis pas sûre. Alors, mais bon, et puis, savez-vous ce qui arrive aussi? Puis ça, j'ai des gens qui me le témoignent. La voisine, là, qui reçoit de la visite, au lieu que ça soit à 7 heures du soir, les invitations à souper, ben, c'est plus tôt. On se pointe chez l'un, chez l'autre à 5 heures. Puis on part à 7h30. Fait que les gens ont trouvé des façons de court-circuiter le couvre-feu, de continuer à vivre pareil. Et la certaine normalité, là, que vous dites, ce serait le fun qu'on puisse la reprendre. Il y en a qui se l'ont recréé en changeant juste l'horaire de choses qu'ils faisaient avant. Donc, c'est vrai, vous avez raison, mais pour les jeunes, je pense que là, il y a un impact. Moi, j'en ai des ados, puis c'est sûr que ça nous donne une vraie munition, c'est-à-dire qu'à 20 heures, t'es à la maison, parce que c'est interdit d'être dehors. Ça, c'est simple de même. Ça nous aide beaucoup, les parents. Vous bougez pas, Marie-France Renaud. Merci d'être là, docteur, de prendre le temps. On va revenir tout de suite après avec les commentaires de nos auditeurs. Dites-moi si vous accueilleriez, par exemple, un prolongement du couvre-feu au-delà du 8 février. Comprenez-vous ce qui se passe là, en termes de gestion là, de cette pandémie? Santé publique nous dit, attention, les hospitalisations, c'est toujours un sujet d'inquiétude. Il y a le délestage. François Legault a été clair là-dessus. C'est bien, les mesures qui sont mises en place, pas que le couvre-feu, il y en a d'autres. Hein. Toutes ces mesures-là commencent à fonctionner, mais il ne faudrait pas penser qu'on est rendu là. Il y a encore beaucoup de croûte à manger, beaucoup de chemin à faire. Alors, vous me direz comment vous voyez ça tout de suite après. Pour nous joindre dans la grande région de Montréal, vous faites le 514-790-9850, 1-866 un peu partout à l'extérieur dans le Grand Québec. Vous faites le 1-866-790-9850. Dites-moi si vous êtes d'accord avec un possible prolongement du couvre-feu au-delà de la date du 8 février. C'est dans deux semaines et François Legault nous a dit ben c'est pas sûr qu'on soit en mesure de le lever pour toutes sortes de raisons. La docteur Renaud estime qu'il y aurait peut-être un choix à faire là. Est-ce qu'il faut maintenir le couvre-feu puis en même temps ben, permettre une certaine ouverture des commerces? En tout cas, il y a Martin qui m'écrit. Lui, il accueille très bien les mesures. Il dit « Continuons pour en finir une fois pour toutes avec la pandémie. Revenir en arrière avec 2600 cas par jour. » C'est vrai qu'on a déjà connu ça. On a même dépassé le 3000 à un moment donné. Il dit « Ce serait dramatique. Let's go. On lâche pas », dit Martin. Lucie, comment vous voyez ça, vous? Bonjour.
Bonjour. Moi, je vois qu'on continue le temps qu'il faudra. Il faut continuer. Écoutez, je déplore énormément qu'on ait, même si c'est une petite partie de notre société qui semble manquer un peu de QI, là, il faut que le reste, nous les plus forts, il faut qu'on continue de se battre. Puis, écoutez, on regarde ça, les hospitalisations, tout le kit. Puis là, c'est encourageant parce qu'on voit les cas baisser. les hospitalisations ne baissent pas encore, ouais. Mais je pense que ça va venir, puis il faut qu'on se tienne, puis il faut qu'on continue. Ces imbéciles-là, là, ceux qui vont à contre-courant, on dirait qu'ils comprennent pas qui allonge le problème, puis qu'au lieu d'être dans merde un an, on va peut-être être en merde deux ans, trois ans à cause d'eux autres. Il faut qu'on se tienne, puis on continue. On donne l'exemple.
Merci, Lucie. Merci beaucoup. François, bonjour.
Bonjour, Mme Maréchal. Moi, je suis contre le couvre-feu. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis à travail de soir, je vous mets en contexte, je prends ma voiture pour travailler. Je ne sais pas combien de fois depuis le couvre-feu que je me fais arrêter par la police. J'ai mon papier d'exemption pour dire que je travaille. Sauf que c'est pas le fun de se faire arrêter au-dessus. Puis c'est une moyenne que je vous donne 6 fois par soir par la police. De se faire, c'est très anxiogène comme. Puis moi, je suis contre ça, le couvre-feu, parce que on est dans une société, je pense qu'on est libre. Moi qui me prends ma marche le soir à 10 heures parce que je travaille de soir, donc je vis de nuit, et ainsi de suite, je suis pas dangereux, je suis pas contagieux. Quand je prends ma marche le soir sur un rang, dans le fin fond de Mirabel, je sais pas, je suis pas contagieux. Je suis pas le port du masque, mettons, dans tout ce qui est les infrastructures, dans les magasins, le lavage de mains. Je suis pas un Covidio, je sais que présentement, le virus, il existe. Mm-hmm. Mais de là à couper, puis moi, je vis dans un milieu anxiogène. C'est pour moi, sortir, prendre une marche, c'est quelque chose que ça me distresse. Je trouve ça plate de vouloir tout le temps de. C'est plate. Moi, je suis contre ça parce que il y a d'autres personnes qui vivent dans des situations violentes, que leur seul moyen, c'est de sortir à l'extérieur. Il y a plein de choses. Parce que moi, je fais partie de ceux qui sont vraiment contre. Mais tu sais, en même temps, je le fais, je respecte aussi parce que, bon, je suis conscient que le virus est très, très mortel, il est dangereux. Mm-hmm. Je le fais, mais je trouve ça plate qu'on me. Excusez, peut-être, il y en a qui sont peut-être pas d'accord avec ce que je veux dire, que de brimer ce droit-là d'être libre.
Donc, vous enlèveriez le couvre-feu le 8 février, François, mais est-ce qu'à ce moment-là, vous maintenez les magasins fermés? Comment vous voyez ça?
Moi, honnêtement, les magasins fermés, qui ferment les magasins, qu'on continue à se laver les mains, qu'on continue à appliquer la loi de ceux, mettons, qui font des parties, parce que moi, j'en fais pas de parties, je suis pas un gars qui va aller se promener le soir pour aller voir des amis. Si je me promène le soir, c'est d'être pour travailler.
Ouais.
Puis de deux, ben, c'est pour sortir de la maison quand il y a des situations X, ou je suis peut-être pas le seul qui le fait non plus, mais je continue à respecter des règles qui sont déjà établies avant le couvre-feu. Oui, c'est sûr qu'il y avait des 2000 à 3000 cas par jour, mais tu sais, je sais pas, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée de mettre. Non, c'est pas une bonne idée.
Ouais, je comprends. Merci beaucoup. Martine, justement, commerce, vous avez un institut d'esthétique, Martine. Comment vous voyez les choses? J'imagine que là, vous êtes fermée, vous avez hâte de rouvrir.
Écoutez, moi, ça fait 2 semaines que, premièrement, j'essaie de trouver une ligne ouverte pour appeler parce qu'on parle rarement de nous en esthétique, que ce soit coiffeuse, technicienne en posons ou technicienne en pose de cils. Donc, moi, le couvre-feu, en ce qui me concerne, au mois de janvier-février, ne m'attaque pas moi personnellement, ne me dérange pas dans ma vie. Moi, je vois rarement du monde marcher très tard en janvier quand il fait moins 15 dehors.
Mm-hmm.
Par contre, nous, en esthétique, que nous avons suivi les règles depuis le 1er juin jusqu'au 24 décembre, je ne crois pas qu'il y avait vraiment eu des éclosions. Moi, en tout cas, j'en ai pas entendu parler dans nos centres. On a respecté les normes de la CNESST. Moi, en ce qui me concerne, j'ai besoin d'avoir un plexiglas. Les clients doivent se mettre du purel en rentrant, ils se lavent les mains, on porte le masque et on est une à une parce que moi je suis seule chez moi. Et ce qui me fâche d'autant plus, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font présentement quand même. Donc il y en a qui sont pas dans leur salon, mais ils vont le faire à la maison.
Mm-hmm.
J'ai des noms. Moi je suis pas du genre à vouloir nommer des personnes ou spouler l'anglicisme.
Non, on comprend.
Donc sauf qu'il y a des gens aussi, il y a des monoparentales, tu sais, il faut comprendre les deux sens.
Il faut vivre. Oui, c'est ça que vous dites, faut vivre. Fait que là, vous dites, pourquoi on nous rouvre pas, nous? Pourquoi on nous donne pas officiellement la permission, Martine, puisque de toute façon, on représente pas un risque de contagion important?
Non, puis moi, je trouve que depuis qu'ils nous ont fermé le 24 décembre, ils nous classent au même niveau que les centres d'achat. Parce que si vous regardez bien, il y a beaucoup de monde qui travaille présentement. Donc, c'est d'autant plus fâchant de voir que qu'est-ce qui est essentiel pour un et ne l'est pas pour l'autre. Moi, les clientes, là, il y en a qui ont vraiment hâte de venir me voir. C'est essentiel parce que c'est une relation qu'on a. C'est au-delà de du service que j'offre. Donc, c'est, tu sais, on a un petit côté psychologie, nous, dans notre domaine. Donc,
oui, puis ça fait du bien. C'est aussi se faire du bien. Je pense qu'il y a une notion aussi de bien-être là-dedans, là, tout à fait. Puis c'est puis après, faut...
Puis moi qui respecte tout depuis le début, j'ai pas eu aucun repas de Noël avec ma famille parce que mes parents dans la qui ont 80 ne veulent pas se ramasser séparés l'un de l'autre, donc ils veulent pas tomber malade et aller à l'hôpital. Donc aucun souper d'amis depuis le mois de septembre. Je vous avoue que là, moi je suis en train de me dire, coudonc, est-ce que je vais faire comme les autres? Mais c'est pas ce que je veux, c'est pas dans mes valeurs de ne pas respecter. Sauf que là, on est rendu là, puis j'aimerais ça qu'il y en ait qui m'aient entendu, puis qu'on soit écouté dans le domaine de l'esthétique.
Merci beaucoup de votre prise de parole, Martine. Merci bien. Docteur Marie-France Reynaud, spécialiste en santé publique, quand vous entendez, bon, on a entendu Lucie, François, Martine, j'ai beaucoup de gens là, qui m'écrivent. Il y en a qui estiment que le couvre-feu, c'est une bonne mesure, qu'il faudrait le maintenir. Évidemment, ça, c'est sans doute des gens là, qui ont un horaire qui leur permet de le faire. Bon, lui, François, il travaille le soir. Fait qu'on comprend que sa vie est décalée par rapport au 9 à 5. Et puis là, Martine, qui, elle, dit c'est une de ces industries dont on parle peu, qui a respecté les règles, qui sent aujourd'hui frustrée de voir qu'on la maintient fermée, alors que dans le fond, il n'y a pas eu d'éclosion, ou en tout cas, il n'y a pas eu de cas au point où ça fasse la une des journaux. Donc, c'est vrai que tout ça, ce sont des bons commentaires, Dr. Reynaud. Comment vous considérez tout ça? Comment décider à la lumière de ça? Là?
Vos auditeurs ont soulevé des bons enjeux, puis permettez-moi de répéter ce que votre auditeur a dit au sujet des gens qui sont victimes de violence.
Ouais.
C'est important que ces gens-là sortent couvre-feu, pas couvre-feu, là, puis ils vont trouver de l'aide. Alors, c'est pas une raison, là, le couvre-feu, de rester dans une situation violente.
Mais vous avez raison, la violence conjugale, les gens m'écrivent ça, la violence conjugale. Les itinérants dont on a parlé cette semaine, on n'est pas en mesure là, de régler la situation des itinérants. Là. C'est comme un dossier qui sera jamais réglé avec un couvre-feu. Donc,
ben,
c'est vrai.
Je pense qu'on peut continuer de travailler le dossier des itinérants. Là. Je ne peux pas croire qu'on ne trouvera pas une solution qui soit équitable là, pour leur permettre d'être à la chaleur sans les embrigader là, dans un refuge. Il y a une solution mitoyenne à trouver avec les itinérants. Il n'y a aucun doute. Moi, je suis sensible à ce que la propriétaire du salon d'esthétisme a amené. Là. Il y a beaucoup de... C'est des petits commerces qui sont souvent tenus par des femmes aussi, là, qui sont monoparentales, qui ont à gagner leur pain. Il faut les écouter aussi. Là, puis c'est vraiment à considérer puis à mettre en balance.
Oui, tout à fait. J'ai quelqu'un qui m'écrit que son ami travaille dans le domaine du conseil de vente au chômage parce que son magasin est fermé. Qatar me dit, moi, le couvre-feu, je pense qu'il doit continuer, mais j'opterai pour la réouverture des magasins avec un horaire peut-être plus serré. Et je rajouterais peut-être au commentaire de l'auditrice, est-ce que c'est possible, vous diriez, Dr. Reynaud, qu'on dise... Après, c'est au gouvernement. Le gouvernement a toutes les coups des franges pour juger du cadre. Il pourrait dire, par exemple, on va rouvrir les magasins, mais les centres commerciaux, les centres d'achat, là, qui visiblement sont des places de rassemblement, qui ont remplacé le perron de l'église, tout le monde sort, les ados comme les personnes âgées se ramassent là, ça jase, ça discute. On a même vu des gens, ils se font des marches dans les centres d'achat. Bon, tous ceux là qui ont l'habitude de s'en servir comme d'une salle sociale, ben ceux-là on dit non, ça pas de flânage. Hein? Il y a une certaine époque on disait aux gens, ok, vous avez pas le droit de flâner ici. On pourrait interdire le flânage ou en tout cas la rencontre sociale de centre d'achat, tout en permettant une réouverture des commerces. Est-ce que vous pensez que ça a du bon sens?
Ben, je pense que c'est possible. C'est possible dans les centres d'achat aussi que seulement les commerces qui ont une entrée extérieure puissent être utilisés pour éviter que les gens circulent. Puis aussi, ben, s'il y a une queue à faire, c'est sûr que faire la queue à l'extérieur, là, c'est moins tentant d'aller faire du magasinage. Alors, c'est des options qui sont tout à fait réalistes, qui ont été faites au printemps. Quand on a commencé à réouvrir les commerces, on n'a pas réouvert les centres d'achat du premier coup. Là. Il faut, faut penser un déconfinement graduel comme on a eu au printemps.
Ouais. Quand vous, est-ce que vous estimez que le couvre-feu est assez a un impact assez grand pour que ça soit logique de le maintenir ou il y a des mesures qui ont sans doute, à la lumière de vos connaissances, Dr Reynaud, plus d'impact?
On a eu dernièrement là, une bonne étude de Santé publique France qui montrait que le couvre-feu a un impact en France. Là, il n'y a pas de doute.
Ici, il est plus tôt, par exemple, il est à 6 heures.
Ben, il a été à 8 heures. Ouais. Puis il était appliqué inégalement, là, selon ouais. les régions. Alors ça a permis des comparaisons, c'est ça qui est intéressant. Puis ça a amené, en tout cas en France, là, une diminution du nombre de cas, une stabilisation de la transmission communautaire. Moi, j'ai l'impression qu'on observe la même chose ici, là, parce que la fermeture de l'école, par exemple, le 17, n'a pas amené une stabilisation de la transmission, loin non. de là. Donc, on a vu les cas continuer à augmenter. Puis, quand on a parlé du couvre-feu, déjà, on a commencé à avoir des effets. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a ici. C'est toujours difficile de départager les mesures. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est le fait de la fin de la période de party des fêtes aussi, qui a coïncidé avec l'imposition du couvre-feu. Mais j'ai l'impression que tout laisse à penser que ça a un effet indépendant des autres mesures.
Oui. Et avant de vous laisser aller, Dr Reynaud, vous feriez quoi avec les gens qui ont une envie incontrôlable de partir en voyage, en tout inclus?
Je leur dirais que c'est la plus mauvaise idée qu'ils ont eue de l'année. Parce que ça risque de nous ramener des variants d'un peu partout dont on ne veut pas et dont on n'a pas besoin pour faire en sorte que la pandémie se termine rapidement. Alors, je leur dirais, rêvez-en, attendez, dans plusieurs mois, vous pourrez partir, le voyage sera d'autant plus apprécié.
Voilà. Merci beaucoup, Dr Marie-France Reynaud, spécialiste en santé publique, professeure émérite de santé publique à l'Université de Montréal. C'est justement ce qu'on va vous faire tout à l'heure, vous permettre de faire. On ne peut pas voyager, mais ça ne nous empêche pas de rêver à des voyages. On va se faire ça ensemble tout à l'heure à 11h30. En attendant, on poursuit sur ces mesures. Couvre-feu prolongé au-delà du 8 février. Est-ce que c'est une bonne idée que vous comprenez et que vous acceptez à la rigueur, si c'est ça? En même temps, c'est vrai que c'est dans 2 semaines. Puis d'ici 2 semaines, les choses peuvent vraiment s'améliorer. Mais disons qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est fort possible que ça soit prolongé, tant qu'en tout cas que les hospitalisations ne baisseront pas, qu'il y aura toujours ce délestage, que les listes d'attente vont être ce qu'elles sont, ça va être difficile de pouvoir justifier qu'on enlève des mesures qui contrôlent la pandémie. On va poursuivre, on a un invité à vous présenter tout de suite après. Le Dr Gaston Dessert est avec nous, l'épidémiologiste bien connu là, de l'Institut national de santé publique. Et vos commentaires, parce que je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est une mesure, ce prolongement, au-delà du 8, la fermeture des commerces, comment on fait ça? Est-ce qu'on rouvre graduellement les voyages aussi? C'est pas évident. Là, ce qui nous pend au nez, c'est que tout le monde va être puni. Pour la gang de ceux qui continuent de dire, ben là, regarde-moi, ça me tente d'aller faire un petit voyage, là. Ben, c'est ça qui va arriver, là. Personne ne pourra plus partir. Personne. C'est comme à l'école. Tu sais, à l'école, là, t'as Toto, là, qui a fait un coup chien, là, au prof, puis il veut pas le dire. Fait que l'enseignante a dit, si Toto le dit pas, que c'est lui, je vais punir toute la classe. Ben, c'est ça qui arrive. À tout de suite, tout le monde.